La voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro. On en sait un peu plus sur le virus qui sévit depuis quelques jours dans la région forestière de Guinée. Les autorités sanitaires affirment avoir maintenant détecté la présence du virus Ebola à l'origine de l'épidémie de fièvre hémorragique qui a fait au moins 34 morts. Rémi Lama est le ministre guinéen de la Santé.
C'est le laboratoire de Lyon qui a confirmé le virus du type Ebola, la fièvre du type hémorragique due à Ebola. Dans tous les centres de santé, on est en train de sensibiliser les gens pour leur dire que tout cas de fièvre hémorragique entraînant une diarrhée, d'informer aussitôt les services de santé pour que les décisions soient prises. Et également, le personnel de santé, à leur niveau, sont sensibilisés par rapport aux dispositions, comme on appelle ça, par rapport à la prévention. Et maintenant, moi-même, je m'y rends avec des kits de protection. Et tous les partenaires se sont mobilisés. Dès demain, cette équipe va être convoyée vers la région forestière pour essayer de protéger non seulement les personnes de santé et éventuellement toutes les localités dans lesquelles ces cas ont été révélés.
Voilà, c'était Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé. Après Laurent Gbagbo, c'est le tour de Charles Blé Goudé d'être transféré à La Haye. Les autorités ivoiriennes ont remis ce samedi l'ancien leader des jeunes patriotes à la Cour pénale internationale. Il y fait face à des accusations de crimes contre l'humanité, des crimes commis après l'élection présidentielle contestée de 2010. À Abidjan, ses partisans dénoncent une justice des vainqueurs, mais certains espèrent qu'il bénéficiera de meilleures conditions de traitement que celles qu'il a connues à Abidjan. On écoute Daniel Nemlin, l'un des partisans de Charles Blé Goudé.
On s'entendait à mieux que ça, parce que pour Mme Gbagbo, on nous avait laissé entendre que les conditions étaient réunies pour qu'on puisse la juger ici. Donc, naturellement, tous ceux qui suivent, on doit pouvoir la juger ici. Bon, là, on se rend compte que c'est toujours la justice des vainqueurs. On a un groupe qu'on met en prison. Il y a un deuxième groupe qui est plus à l'aise, qui fait ce qu'il veut. Ici, déjà, nous, on était inquiets parce qu'on se disait qu'à tout moment, on pouvait nous annoncer son décès. Puisque tantôt, on nous disait qu'il a DST, tantôt, on nous disait qu'on ne sait pas où il est, dans une résidence protégée. Bon. Mais les dernières images nous ont montré le contraire, qu'il était vraiment maigri, il était dans une situation difficile. Donc, je préfère un début de la haie bien en forme avec toutes ses facultés intellectuelles, tout, que de laisser mourir à petit feu dans une prison, dans un sous-sol que je ne peux pas.
Un responsable du gouvernement somalien rapporte que les militants d'Al-Shabaab ont été chassés de la ville de Koriolé. Cette ville située à environ 100 km au sud de Mogadiscio serait désormais sous contrôle. Le vice-gouverneur de la région de Chabelle, Haji Abdifa Abdoul, précise que les troupes somaliennes et celles de l'Union africaine ont rencontré une forte résistance des combattants islamistes ce samedi. Au cours des dernières semaines, les troupes somaliennes et l'AMISOM, la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, ont mené des offensives pour chasser les militants d'Al-Shabaab de leur bastion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Ailleurs dans le monde, les autorités pakistanaises affirment que deux bus de passagers et un camion citerne sont entrés en collision ce samedi, tuant au moins 35 personnes et blessant beaucoup d'autres. Les troupes russes ont bloqué Belbek, la base aérienne de Crimée, près de Sébastopol, cette ville portuaire de la mer Noire. Ils ont appelé les forces ukrainiennes à se rendre sans annonce au préalable. Les unités militaires russes ont encerclé aujourd'hui Belbek. L'agence Reuters rapporte avoir contacté un commandant ukrainien à Belbek qui soutient que les forces russes ont lancé un ultimatum aux troupes ukrainiennes pour qu'elles se rendent. Les autorités malaisiennes affirment que la Chine a publié des images satellites d'un objet géant flottant dans l'océan Indien au sud-ouest de l'Australie. Le ministre malaisien de la Défense, Hishmadun Hussein, a déclaré ce samedi qu'un satellite chinois avait repéré un objet d'une dimension de 22,5 mètres sur 13 dans la zone de recherche de l'avion de Malaysia Airlines.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour, Nathalie Barge avec vous pour le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec un invité ici à Washington, Monsieur Issa Soumana Amadou, inspecteur pédagogique régional à Maradi, au Niger. Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Pourriez-vous nous dire très brièvement pourquoi vous êtes ici?
Okay. J'ai été invité effectivement aux États-Unis pour participer à un programme concernant les visiteurs internationaux dans le cadre de l'éducation. Nous sommes nombreux à y être et nous sommes de plusieurs pays. Nous allons vivre l'expérience américaine en matière d'éducation.
Et vous êtes le seul francophone dans ce programme d'échange?
Oui, je suis le seul francophone, effectivement, dans ce programme.
Donc vous représentez l'Afrique francophone, en quelque sorte?
J'espère, vraiment.
Mm-hmm. Oui. Alors, donc, votre spécialité, c'est l'inspection des professeurs dans les collèges et dans les lycées. Oui. Et vous contrôlez les régions de Maradi, Zinder et Diffa, c'est ça? Donc c'est dans le sud, l'extrême sud du Niger, tout près du nord du Nigeria.
Tout à fait, effectivement. L'inspection pédagogique régionale, effectivement, a été créée en 2010. Nous couvrons à peu près 360 établissements et lycées, complexes d'enseignement secondaire et collèges confondus.
Alors justement, quels sont les défis à relever d'une manière toujours un petit peu globale ou s'il y a des cas particuliers à citer notamment?
Ok. Dans ce groupe, nous avons trois types d'enseignants. Il s'agit des enseignants qui ont la formation initiale et la formation pédagogique, et qui sont aptes à enseigner dans la discipline. Il y a des enseignants qui ne sont pas formés dans la discipline et qui ont besoin effectivement d'être encadrés. Et ils n'ont été ni formés dans la discipline et ils n'ont pas bénéficié aussi d'enseignement pédagogique. Maintenant, il y a des enseignants qui ont été formés dans la discipline, mais à qui la formation pédagogique manque. Donc, ces enseignants-là méritent une attention particulière.
En ce qui nous concerne dans le magazine au féminin, le sujet qui nous intéresse un petit peu plus, logiquement, c'est l'éducation des filles. Alors, vous couvrez une région à majorité musulmane. Mmh. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de jeunes filles qui vont au collège?
Okay. On peut situer en moyenne 40% effectivement des filles qui vont au collège.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal, je crois, parce que nous connaissons quand même une croissance assez significative dans ce domaine-là, due aux sensibilisations qui sont périodiquement faites et d'une manière d'ailleurs très régulière. Et l'État effectivement investit des moyens assez considérables pour pouvoir amener l'éducation de la jeune fille à croître dans tout le pays.
Alors, ce qui est souvent remarqué dans la plupart des régions, en Afrique, d'une manière générale, c'est que les jeunes filles vont à l'école, mais elles ont tendance à quitter l'école plus tôt. Donc, ce qui nous mène au lycée maintenant, on arrive à quel pourcentage à peu près?
Okay. Au lycée, le pourcentage est vraiment bas. Et par rapport à ce que nous avons constaté, par exemple, l'année dernière, nous avons eu à mener une enquête effectivement par rapport aux filles qui ont accès au lycée et on les avait situées à 22%. 22% effectivement. Mais maintenant, ceux qui arrivent en terminale et surtout qui sont des localités rurales, leur nombre est très limité. Et ceci est dû à plusieurs facteurs. Entre autres, on peut citer le mariage. Mm-hmm. Beaucoup préfèrent ne pas poursuivre leurs études, faire des études courtes telles qu'elles peuvent opter pour l'enseignement au niveau du primaire, qui après 2 ans après le BPC ou bien juste après le bac, elles partent dans les écoles normales où elles reçoivent une formation pédagogique et après laquelle elles se retrouvent dans les établissements primaires en vue d'enseigner.
chères auditrices et auditeurs, le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique est sur Facebook. Cliquez sur like si vous aimez. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette page, sur des sujets qui vous concernent et vous intéressent particulièrement. Vous pouvez également proposer des invités, proposer des sujets et participer à une émission. Vous pouvez écouter le magazine au féminin sur le site de La Voix de l'Amérique. Cette émission hebdomadaire est diffusée tous les samedis à 19h30, temps universel. Vous êtes donc dans cette région du sud du Niger. On parle beaucoup en ce moment, surtout depuis la sortie du rapport de Human Rights Watch, du problème des talibés au Sénégal. Alors, cette organisation internationale avait déjà sorti un rapport auparavant et constate aujourd'hui finalement qu'il n'y a pas eu de progrès depuis l'an dernier, depuis un an. Qu'un dortoir à Dakar avait brûlé, un dortoir d'une école de marabout avait brûlé et des enfants, des jeunes garçons avaient péri dans cet incendie. Donc, suite à cela, le gouvernement avait pris des mesures au niveau législatif, mais on reproche finalement que ces mesures ne soient pas vraiment exécutées. Alors, est-ce que vous connaissez ce type de problème dans votre région? Est-ce que vous avez ce genre d'école? Est-ce qu'elles sont réglementées? Comment ça marche?
Ok. Bon, pour ce qui me concerne spécifiquement la région dans laquelle je suis,
Maradi,
effectivement, et j'ai surtout la ville de Maradi où je vis.
Oui.
Donc là, je suis témoin oculaire et je sais qu'il y a des écoles coraniques qui sont en train d'être modernisées. Et je peux vous citer, entre autres, une école coranique que je connais très bien. Mm-hmm. Et il s'agit donc de l'école Cheikh Bouladane, où des enfants, effectivement, sont pris de tous les côtés, parfois des villages qui viennent s'installer et qui sont même internés et qui sont nourris. Et ils ont parfois le soutien de bonne volonté ou alors des ONG qui interviennent pour donc leur venir en appui. Et
alors, est-ce qu'ils m'ont dit, ces enfants, ou pas?
Non. Les enfants de cet établissement dont je parle, que je connais très bien, ne m'en disent pas.
Est-ce que vous avez d'autres exemples où des enfants mendient dans la rue à Maradi?
Ok, ça ne manque pas parce que je vois effectivement des enfants quand même qui se promènent et qui mendient. Donc, je ne peux nier cet aspect-là.
Est-ce que vous savez s'ils proviennent de ce type d'école, entre guillemets?
Je ne crois pas. Mm-hmm. Ça peut être des marabouts saisonniers qui viennent s'installer dans la ville avec donc, les enfants.
Et votre réaction par rapport à cela, vous êtes musulman?
Oui.
Parce que c'est grave quand même, hein, ce qui se passe au Sénégal et ailleurs. On parle de torture, hein. C'est extrêmement grave.
Ok. Donc, bon, je n'ai pas pris connaissance du rapport, mais tout ce que je sais, la mendicité ne cohabite pas avec l'islam. L'islam condamne la mendicité, effectivement. Je peux vous assurer que nulle part dans la religion musulmane, la mendicité n'a été encouragée. Et le prophète lui-même, il le dit clairement, il dit « Vous devrez travailler comme si vous n'allez jamais mourir. » Et aussi, vous devrez aussi faire la dévotion comme si on vous dit que le lendemain, ou bien sur le champ, vous allez perdre l'âme. Donc, ça veut dire que la religion n'encourage pas la paresse, ça n'encourage pas la mendicité. En réalité, c'est quelque chose qui existe dans l'esprit des gens et c'est contraire à la religion musulmane.
Vous avez de nombreuses régions musulmanes.
Tout à fait.
Est-ce que, au niveau pédagogique, est-ce que vous savez si quelque chose justement est entrepris, ben, comme au Sénégal, avec des mesures, et que cela, petit à petit, permettra à des enfants d'être pris en charge comme tout enfant devrait l'être au niveau de l'éducation.
Pour ce qui est donc de l'expérience du Niger et surtout Maradi que je connais un peu, effectivement, j'ai remarqué que une tendance qui consiste à moderniser et à organiser ces écoles coraniques là est en train de voir le jour ou même a vu le jour. Et c'est ainsi que, effectivement, personnellement, un collègue, c'est-à-dire l'inspecteur pédagogique d'arabe, a eu à participer à plusieurs formations de marabouts traditionnels. Effectivement. Et il y a donc une campagne de sensibilisation qui est en train d'être menée et l'impact se fait de plus en plus remarqué.
À ce propos, ce qu'on appelle une école coranique, les enfants, on leur enseigne le Coran, mais un enfant qui est dans une école comme ça, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir également, à côté des cours comme tout le monde, de physique, de chimie, de mathématiques, de littérature, etc.
Donc, par exemple, cette année, l'école coranique dont je vous ai parlé, Cheikh Ladan, qui est appelé aussi Tsanwaye, donc, et le responsable de l'établissement m'avait approché. Et il m'avait dit, voilà, au-delà de la récupération des enfants, qui sont donc les talibés, et ils veulent aussi avoir aussi des enfants qui ont été renvoyés, par exemple, de l'école et à partir de la classe de 3e ou bien antérieurement, en vue donc de les amener à être formés par soit des étudiants qu'ils vont recruter, et qui, par exemple, n'ont pas beaucoup de matière à prendre au niveau de l'université, ou même des enseignants à qui le calendrier le permet. Et non seulement ça permettra à ces étudiants d'avoir un revenu au-delà donc, de leur bourse, et ça permettra aussi à ces enfants cibles d'être formés en vue de se présenter aux différents examens, ce qui sera une opportunité pour eux donc, de poursuivre leurs études. En réalité, leur objectif, c'est effectivement de servir toute cette catégorie d'individus, enseignants, étudiants et aussi des élèves renvoyés de l'école pour leur offrir une seconde chance.
Donc, enseigner d'autres matières que l'islam, en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est courant au Niger dans ce type d'école ?
Pour ce qui est donc de mon cas, c'est l'école qui m'a approché comme ça dans ce sens. Et je sais qu'ailleurs aussi, effectivement, ça se fait. Ça se fait. Il y a des gens qui aident aussi des élèves, comme on le dit, une école de seconde chance.
Bien, merci beaucoup Issa Soumana Amadou, inspecteur pédagogique régional à Maradi, au Niger. Merci beaucoup,
merci,
au revoir.
Merci, je vous en prie.
Entre parenthèses.
Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, occupe cette fonction depuis environ un an. Écoutez-la à travers un reportage de notre correspondant à Goma, au Nord Kivu, Primo Pascal Roudaigua, qui lui a tendu son micro.
On a fait des progrès au niveau régional et on a même un plan d'action au niveau régional qui a été adopté par les chefs d'État au mois de janvier à Addis Abeba. Et on a beaucoup de travail dans ce plan d'action qui doit être mis en œuvre avant la prochaine rencontre au mois de septembre. Dans ce pays, on a aussi le mécanisme national de suivi. Le vrai progrès, c'est que les groupes armés ne sont pas là dans la même situation.
Pour le professeur Godefroy Kamana, il n'y aurait jamais de paix dans la région sans l'accord cadre signé à Addis Abeba, qui a prévu la nomination d'un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs.
Elle est parvenue à stabiliser les problèmes. Et actuellement, au bout d'une année, on voit quand même que la situation n'est plus la même qu'au départ. Nous ne sommes plus en situation de conflagration guerrière. On est vraiment dans la direction de la recherche de la paix. Et c'est à son actif de dire qu'elle a travaillé dans un contexte difficile, mais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de perspectives de paix que de perspectives de guerre.
Mary Robinson a encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne la RDC.
Nous avons assisté à un processus qui consiste à donner des réponses étrangères aux problèmes du Congo. c'est Mary Robinson, c'est Kobler, c'est la communauté internationale. Ce sont ces forces-là qui imposent leur logique et leur vision du problème. Mais nous, Congolais, on n'est pas encore des acteurs, des choix de ce que nous voulons comme acteurs importants et surtout de notre responsabilité pour bâtir l'avenir que nous voulons.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
Parole de femme.
Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique à Washington avec Nathalie Barge et une invitée en ligne, Madame Ndido Ndiaye, ex-ministre sénégalaise, coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Alors, Madame, bonjour.
Bonjour Nathalie, comment allez-vous ?
Très bien et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pourquoi avoir créé ce type de réseau ?
L'objectif est d'aider, d'accompagner tous les pays francophones dans l'évaluation de l'égalité hommes-femmes à l'intérieur de leur structure, à l'intérieur de leur programme de développement. Vous savez que l'Union européenne, pour vous dire que ce combat de l'égalité femmes-hommes n'est pas quelque chose d'acquis et ni d'évident pour beaucoup, vous savez que l'Union européenne vient de rejeter un rapport sur lequel ceux qui ont travaillé, les auteurs, voulaient que l'égalité homme-femme soit davantage prise en compte dans les programmes de l'Union européenne. Et ce qui avait été objecté comme avis, c'est que c'était un fourre-tout, que finalement, même les histoires d'allaitement, les histoires de mariage précoce, etc., etc., certains députés de droite ont eu comme argument que ce texte était un fourre-tout, qu'on avait pris le prétexte de l'égalité femmes-hommes pour y mettre en fait d'autres revendications. Mais ce que je veux dire globalement, c'est que les pays qui veulent être à la pointe de la bonne gouvernance ont absolument besoin d'intégrer dans leur programme cette notion d'égalité femmes-hommes, non seulement dans le partage des responsabilités pour conduire les programmes, mais dans le partage également des dividendes de ces programmes-là, parce que ces programmes produisent des résultats et ces résultats devraient être à la disposition et au bénéfice des populations, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors, ce réseau fédère, comme je vous l'ai dit, des réseaux internationaux qui ont déjà un certain bagage sur la mise en œuvre de l'évaluation des lois, par exemple, qui existent pour favoriser les hommes et les femmes en même temps dans les programmes de développement. Nous allons aider tous les pays qui le souhaitent, en particulier les pays africains, à faire l'évaluation de l'application, par exemple, de la CEDEF, où est-ce que le bas blesse, où est-ce qu'il y a encore des obstacles. Il y a certains pays qui ont émis des réserves.
Justement, est-ce que vous avez remarqué éventuellement, finalement, que les droits des femmes étaient un petit peu plus mieux, en tout cas mieux représentés, notamment dans les pays anglophones ?
C'est vrai que les pays anglophones ont une longueur d'avance sur les pays francophones dans l'application des textes, que ce soit les textes nationaux, les lois nationales qu'ils prennent, comme les lois supranationales, telles que les différentes conventions que nos pays ont signées et ratifiées. Le problème qui a été identifié, c'est que l'application de ces lois dans les pays francophones est relativement lente, si elle existe. Des fois, elle n'existe absolument pas. Des fois aussi, cette application fait entrer des billets, tels que des réserves, les réserves que certains pays ont faites sur, par exemple, l'égalité effectivement homme-femme, le problème du code de la famille dans certains pays. Pour le Sénégal, par exemple, c'est deux articles, 151 et 152 du code de la famille, que nous souhaiterions faire lever. Il s'agit non seulement de la puissance paternelle, mais que dans un autre article, le mari reste le chef de famille avec un certain nombre de contingences qui lient encore la femme à une très grande subordination. Maintenant, une fois qu'on aura fait cette revue, nous souhaiterions créer un système de veille. Chaque pays concerné doit être interpellé formellement par notre réseau Nous devrions également nous mettre à côté de ces pays-là pour les aider à mettre en œuvre tout ce qui redresse les billets qui ont été identifiés.
Est-ce que vous bénéficiez notamment du soutien de femmes parlementaires dans certains pays d'Afrique qui sont très nombreuses? On peut
tout à fait.
Le cas du Rwanda, le Sénégal même, entre autres.
Oui, tout à fait. Nous allons travailler avec l'Assemblée parlementaire francophone. C'est un réseau extrêmement fort, très très présent, et qui vérifie et qui surveille non seulement l'adoption de lois favorables aux femmes et aux hommes, mais ces réseaux suivent également la mise en œuvre de ces lois-là. Oui, nous allons travailler avec Françoise Berthiaud, qui dirige ce réseau-là. Et ma foi, vous savez, c'est seulement il y a 2 mois que nous avons eu la charte, le règlement intérieur aussi a été formulé, mais nous venons de New York pour la CSW et c'est à New York que nous avons eu nos premiers panels, à part bien entendu Kinshasa où nous étions il y a 2 semaines, où le deuxième forum mondial des femmes francophones s'est tenu avec Madame Benguigui, mais avec également la présidente de la RCA, Madame Nsamba Panza, qui est venue et qui a aussi sollicité le réseau pour que nous l'aidions à faire valoir respecter l'égalité femmes-hommes dans tous les programmes actuels de son pays, les programmes sur la paix et la sécurité de son pays, les programmes sur le redressement économique de son pays, constituent une valeur ajoutée pour faciliter ces programmes-là.
Alors, on comprend bien que c'est un réseau international. Hein. Vous avez dit que vous étiez à New York, donc vous étiez en fait à la commission, c'est ça ?
Le statut de la femme, c'est là où nous étions. Et nous avons pu avoir un dialogue avec l'ensemble des délégations qui sont venues aux Nations Unies et qui venaient des pays francophones. Vous vous rendez compte, c'était énorme. Donc la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies a favorisé et organisé un premier cadre de concertation au niveau ministériel où le ministre de la RDC, qui est le ministre en titre pour le sommet de la francophonie, parce que la francophonie s'est tenue dans son pays tout dernièrement, et le ministre de la Femme du Sénégal et d'autres ministres aussi des pays francophones, le Mali y était, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. La plupart des ministres de la Femme qui étaient venus à la commission du statut de la femme ont participé à ce cadre de concertation. Et ce qui est important, c'est qu'elles ont créé un groupe de travail pour que dans l'agenda post-2015, qui est en train d'être formulé et sur lequel la plupart de nos délégations travaillent, que l'égalité femmes-hommes soit bien spécifique. Il y avait également le ministre des Droits des Femmes de la France, Mme Najat Benkassem. Nous avions 2 objectifs pour ce cadre de concertation ministérielle. D'abord, qu'on se mette d'accord, que les ministres se mettent d'accord. C'est une utilité, c'est un besoin d'identifier un objectif spécifique. Deuxièmement, l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les programmes en cours qui sortent des objectifs du développement, ce n'était pas assez. On n'en avait pas assez fait, il n'y avait pas de bons résultats, les gens étaient en retard. Et également, l'importance de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans ces programmes n'était pas correctement appréhendée. Donc il y a 2 voies, l'objectif spécifique et la continuation de l'intégration de l'équilibre femmes-hommes dans les programmes de développement de nos différents pays.
Professeur Didon Diaye, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne continuation et à très bientôt.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round 2, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.
Is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Khawuleza, mama," which simply means,
Hurry, Mama. Please. Please don't let them get you. Kauleza, Mama. Kauleza, Mama.